Alors, nous nous faisons dans la congratulation. Donc, les gens de Renault, les acteurs du projet qui sont là, sont évidemment roses d'émotion, mais gênés par tous les compliments qu'on a fait à leur endroit, mais ils pourront quand même intervenir. Je suppose que d'autres vont poser des questions. Alors, comme d'habitude, on est maintenant dans la partie débat. Vous faites signe que vous voudriez intervenir et je donnerai la parole. Il y a juste un point qui... Quand on voit l'évolution de Renault, la mondialisation, l'extension sur tous les pays, que devient l'identité de cette entreprise? C'est une question qu'on peut se poser. Mais je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui reste de Renault d'antan. C'est l'espèce de génie de la voiture populaire. La capacité que Renault a d'attraper, de faire les voitures, il y a la 4 chevaux, la R4, etc., qui est la voiture des classes sociales qui accèdent au niveau de vie leur permettant d'acheter des voitures. C'est un peu ce qui a attiré Renault dans les pays en voie de développement. Et alors, quand on parle de Volkswagen, pour moi, Volkswagen, ça veut dire voiture du peuple. Alors, soit c'est un peuple repu maintenant qui fait des grosses voitures, mais... Tu me contrediras si tu veux, mais dans le livre, on en parle un peu. C'est la Logan, c'est la voiture de l'accession des classes moyennes au pouvoir d'achat qui peut te permettre d'acheter une voiture. Et en France, du coup, c'est aussi la voiture qui plaît aux gens qui n'ont plus vraiment envie de voiture avec plein de trucs dedans et qui ont envie d'une voiture pas trop chère. Mais je me risquerai pas. Peut-être M. Schweitzer veut faire un commentaire ou...
D'abord, j'ai écouté ces exposés avec beaucoup d'intérêt. Je ne sais pas si j'ai physiquement rosi, mais j'ai écouté avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Et j'avais un certain nombre de remarques à faire, 8 à vrai dire. Donc ça va être un peu long. Mais bon, j'en profite. Hein. L'occasion de parler à des gens compétents en management, en sciences, ça ne se perd pas. La première, c'est Christophe Miller a dit au fond... Normalement, on ne fait pas des innovations au sein des insiders. Et au fond, Renault n'est pas un pur insider, c'est un insider-outsider. Je veux dire, je pense que c'est un objet qui ne pouvait naître que chez Renault. Il ne pouvait pas naître dans une petite entreprise parce qu'il fallait deux choses que seule une grande entreprise a, une énorme compétence technique et la capacité de risquer 1 milliard d'euros. Et au fond, quand même, Logan, c'était pas cher, mais c'était un pari de l'ordre de 2 milliards d'euros. Et on a dit, le concept, c'est sympathique, mais il fallait le mettre en œuvre. Et il fallait énormément de compétences techniques pour le mettre en œuvre. Et ça ne se trouvait que dans une grande entreprise. Alors, Renault est, je pense, une grande entreprise un peu atypique. C'est pour ça que je dis insider, outsider. C'est une entreprise qui a le goût de l'aventure et de la liberté. Et je pense effectivement que Volkswagen n'aurait pas inventé la Logan. Donc... Première remarque, Renault insider, outsider, et cette double caractéristique probablement condition de la naissance de Logan. Seconde remarque, vous avez parlé d'innovation conceptuelle. Au fond, c'est un mot que j'avais essayé d'introduire dans les axes stratégiques de Renault à la fin des années 80, parce que je voyais bien que les Allemands, ils faisaient de la technologie que nous ne savions pas faire. Et donc, comme Renault avait des chromosomes d'innovation, j'avais inventé ce mot d'innovation conceptuelle pour dire qu'il y a d'autres biais d'innovation que la technologie. Et l'innovation de base de la Logan, c'est dans son cahier des charges. Le cahier des charges, 3 mots, robuste, moderne, accessible. Et c'est pour ça qu'on ne risquait pas de dépenser trop, parce que dans le cahier des charges, il était écrit qu'on ne devait pas dépenser trop. Et au fond... Il n'y avait aucun objet automobile qui réponde à ce cahier des charges-là. Et c'est important de façon générale dans l'automobile. On pense toujours au développement, mais il y a en amont du développement le cahier des charges. C'est-à-dire, on dit quel objet on souhaite avant de le faire. Et là, dans ce cas, c'était ces 3 lignes. Troisième remarque, quand je suis arrivé chez Renault, le premier livre que j'ai lu, que d'ailleurs personne n'avait lu depuis 20 ans, c'était le livre d'Alfred P. Sloan, My Years at General Motors. Et au fond, il expliquait comment il avait battu Ford en inventant l'obsolescence programmée, la multiplicité des marques, alors que Ford avait inventé la Ford T, c'est-à-dire l'objet rationnel et pas cher. Et mon idée de départ, c'était de dire, eh bien, pour les pays riches, Sloan a raison. Mais la plupart des pays du monde sont dans l'état des États-Unis au moment où Ford a lancé la Ford T. Donc, au fond, revenir au modèle de Ford et redémarrer, et puis après, Sloan peut reprendre le relais. Et ça me conduit à ma quatrième remarque. Le concept de famille de véhicules est inscrit chez Renault. Ça a été d'abord fait la famille Mégane, la première génération de Mégane. Et donc, le fait d'avoir une famille Logan, c'était moins de la flexibilité que l'évolution naturelle est programmée d'ailleurs dès le début. Le Break, la Sandero, la Duster est sensiblement postérieure. Mais les autres véhicules, si je puis dire, ont été imaginés, décidés formellement en 2003-2004. Donc la famille, si je puis dire, de toutes les plateformes, c'était quelque chose qui était naturel chez Renault et qui était inscrit sur Logan dès lors qu'on a su que le modèle de base était réussi. Ce qu'on a su le premier jour, on a roulé dedans, mais pas avant. Ma cinquième remarque s'étend, juste en passant, une petite défense de Bruxelles. Vous avez dit les normes, c'est du toujours plus, mais il faut rappeler que les automobiles, ça pollue et ça comporte des risques, et que si Bruxelles n'était pas là, nos automobiles pollueraient beaucoup plus et tueraient beaucoup plus, simplement parce que les gens n'achètent pas le fait de ne pas polluer ses voisins. Donc, vive Bruxelles. Sixième remarque. J'ai été ravi d'entendre que les ingénieurs de Bosch s'étaient pris de passion pour la simplicité. Je dois dire que c'est une passion qui n'est pas coup de foudre normalement chez les ingénieurs. Hein. Il faut vraiment creuser pour que cette passion vienne. Et là, on a fait la même expérience chez Renault. C'est-à-dire que, au fond, ça a pris très longtemps à prendre. Mais une fois que ça a pris, ça devient un jeu très stimulant. L'économie de moyens est un jeu très stimulant. C'est d'ailleurs la base de l'économie. Septième remarque, j'étais pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit sur l'internationalisation. Je m'explique. Logan était au départ un projet, au fond, dans mon esprit, de voiture mondiale. Ce que la Renault 9 avait voulu être, mais n'avait pas réussi à être complètement. Sa naissance en Roumanie est un accident. Hein, je veux dire, franchement, je ne pensais pas du tout au marché roumain. Il se trouve qu'on avait une usine pas chère et que je pensais qu'effectivement que d'avoir une usine forcerait les ingénieurs qui manquaient un peu d'entrain à faire une voiture parce qu'il était douloureux d'imaginer une usine sans voiture. Mais c'était dès l'origine une voiture qui avait une vocation mondiale et comme l'a dit, je crois, dans une interview mais qui est parue après sa mort, Luc-Alexandre Ménard, le fait de dire qu'on ne la vendrait pas en Europe occidentale était un peu une ruse. C'était pour éviter qu'on fasse une Clio, une Mégane ou tout cela. Mais au fond, c'était une voiture conçue en France comme voiture bas coût. Là, je dois dire, l'idée qu'on se mettait dans la peau des autres, je ne suis pas allé aussi loin. Je suis parti de l'idée simplement que des gens qui étaient deux fois moins riches, il fallait leur faire une voiture deux fois moins chère. C'était aussi simple que ça dans l'esprit. Et ma huitième et dernière remarque, c'est qu'au fond, j'ai toujours pas compris pourquoi la voiture n'a pas été copiée. Ça, c'est pour moi le mystère qui demeure dans Logan, parce que maintenant, quand même, ça prend 5 ans de concevoir une voiture. On sait qu'elle marche depuis 2005-2006. Qu'est-ce qu'ils attendent, hein ? Tant mieux, mais qu'est-ce qu'ils attendent ?
Alors, on va passer donc aux questions de la salle.
Bertrand Cochrane d'Assos Systèmes. Donc j'étais chez Renault lors du lancement du programme Logan. Schweizer n'était plus là, mais Carlos Ghosn était arrivé. Je dois dire que chez Renault, en termes de commercialisation, personne ne croyait au projet. Mais vraiment, ça a été Arnaud Deboeuf, qui est aujourd'hui responsable du programme 52, peut en témoigner. Ça a été compliqué. J'étais directeur de la prévision des ventes, il y avait des volumes. Et clairement, ce n'était pas un programme conçu pour l'international, puisque en Inde, la Logan était dans une tranche de 10 à 12 lacs, alors que le marché à 80% est entre 3 et 4 lacs. Quoi. C'est la Maruti 800L qui se vend en low cost. De la même manière, en Amérique du Sud, le segment des populaires est beaucoup plus bas. Quoi. Donc c'était clairement un véhicule fait pour les marchés d'Europe de l'Ouest. Et l'internationalisation, elle s'est faite effectivement en Europe de l'Ouest et un peu en Europe de l'Est. L'échec que j'ai perçu, et je conclurai là-dessus, puisque ce n'est pas tellement une question, c'est la résistance qu'il y a eu aux projets européens et notamment au niveau des capacitaires. Quoi. Parce que là, vous avez montré des graphiques. suivant toujours de près le projet Logan, parce que c'est un projet intéressant, parce que pour faire du low cost, il faut être très intelligent, beaucoup plus que pour faire des voitures très sophistiquées, je pense. Si on avait plus de capacité, on aurait pu aller plus loin et en vendre plus, quoi. Et pour conclure, sur Volkswagen, car je travaille chez Dassault Systèmes, Volkswagen fait partie aussi de nos clients. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre remarque. Aujourd'hui, une Golf se vend auprès d'une Clio.
J'ai un peu l'esprit de l'escalier, donc j'ai deux remarques sur la remarque numéro 4 et la remarque numéro 7 de M. Schweitzer. Alors vous allez peut-être me dire, c'est un peu des coupages de cheveux en 4 d'académiques. Je pense que famille et lignée, ce n'est pas exactement pareil. C'est-à-dire que quand on voit une Mégane, une Mégane est programmée dès le départ pour être... diversifié, il y a le monospace, il y a le cabriolet, etc. Donc, quelque part, on va prendre l'enveloppe de toutes ces contraintes et ça va donner un produit, une plateforme, pardon, qui va être ensuite déclinée. La manière dont la lignée Logan a été conçue n'est pas prise de la même manière. C'est-à-dire, ex ante, on n'a pas fait peser sur le premier Logan le poids du fait qu'ensuite, il y aurait peut-être un Duster. Ensuite, il y aurait peut-être une Sandero, et donc avec un effort de style supérieur, etc. Et donc, je pense qu'en termes de conception, ce n'est pas du tout pareil. Quand on a des plateformes multivéhicules, le premier problème, c'est on standardise comment ? Est-ce qu'on standardise par le haut ou est-ce qu'on standardise par le bas ? Souvent, ça amène à accumuler tout un tas de contraintes pour que la voiture la plus haute soit sûre, tout simplement, hein, qu'elle ne soit pas dangereuse. Et donc, on va incorporer dans les gènes de la plateforme tout un tas de choses dont on n'a vraiment besoin que celui qui a cette haute gamme. Alors que l'idée de lignée de Logan, c'est on part sur un principe qui est un principe d'un tricorps fait dans une usine unique, etc. Par exemple, la complexité logistique d'un centre multi-industriel comme c'est maintenant, elle n'a pas du tout été incorporée au début. Donc je pense que c'est assez profondément différent d'avoir une logique plateforme famille ex ante ou d'avoir la gestion d'une lignée opportuniste, dynamique, même si a posteriori, effectivement, il y a une famille Logan. Mais elle n'a pas du tout la manière de la génition, je sais pas, l'accouchement de cette famille est complètement différent. Voilà. Bon. La deuxième remarque, c'est sur Bruxelles. Alors, c'est une spécialité de mon co-auteur Bernard Julien. Je suis un peu en contre-emploi, là, puisque lui, c'est vraiment l'économiste d'automobile. Ça dépend du point de vue auquel on se place, si je puis dire. C'est-à-dire que si vous dites la Logan permet à des gens qui, avant, achetaient des voitures d'occasion, d'acheter des voitures neuves, eh bien, on peut dire que réussir à baisser le seuil en mettant quelque chose de simple, mais moderne, je reprends votre cahier des charges, simple mais moderne, va permettre de sortir du marché tout un tas de voitures dangereuses, polluantes, etc., qui sont des voitures de 15 ans d'âge, qui sont là parce que les normes de Bruxelles imposent des prix toujours montants. Et donc, cette population de personnes qui ne peut pas accéder au neuf, si on change de logique, eh bien, elle pourra avoir des voitures neuves, sans ESP, sans choses comme ça, mais quand même mieux que la vieille voiture d'occasion qui est rouillée. Voilà.
Bon, sur Bruxelles, je suis d'accord qu'il y a un équilibre subtil à trouver, ce qu'essaye de faire Bruxelles, entre l'amélioration du norme et le supplément de coût pour effectivement éviter de décourager l'achat du neuf. Et vous pouvez bien croire que tous les constructeurs automobiles se battent comme des fous pour que les normes ne découragent pas les gens d'acheter du neuf. Sur l'autre sujet, je vois bien l'opposition théorique ou conceptuelle entre lignée et famille. En fait, les choses sont un peu plus floues. Disons, oui. Sur Mégane, par exemple, toute la famille n'a pas été pensée d'un coup. Elle s'est construite en phases successives, et ça j'en suis à peu près certain. Et sur Logan, on a bien sûr dit que la voiture de base ne devait porter aucune charge pour autrui, mais on a pensé la famille avant la sortie matérielle du premier véhicule. Donc au fond, je vois bien la différence famille-lignée. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas deux ensembles distincts. Il y a une plage de recouvrement. Voilà.
Oui, bonjour. Eric Stefanello, je travaille chez Airbus. J'essaye de faire le parallèle avec mon industrie pour voir si on essayait de faire la même chose avec Iyushin, ce que ça demanderait. Et la première chose qui me vient à l'esprit, c'est le travail absolument fantastique qu'il faudrait qu'on fasse en matière de certification et d'assurance qualité. Mmh. Et là, il y a deux mots qu'on n'a pas entendus ce soir, mais j'aimerais que vous nous en disiez un peu plus, à la fois vous-même et puis les acteurs de Renault. C'est les mots justement fiabilité et assurance qualité. Parce que j'imagine qu'il y a dû y avoir un travail phénoménal de fait chez Dacia pour amener ces voitures au bon niveau. Il se trouve même qu'aujourd'hui, alors il se trouve qu'en Normandie, le Duster a un succès fou, j'en vois partout, moi, les week-ends, des gens qui avaient des Range Rover, maintenant ils ont des Duster. Et la qualité perçue, je ne connais pas les chiffres du tout, mais la qualité perçue aujourd'hui de la gamme Logan est presque plutôt meilleure que la qualité perçue de Renault. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce propos de tout ça?
Alors certainement les gens de Renault vont réagir là-dessus pour confirmer. Mais je pense que d'abord, il y a une intelligence, il va encore rosir, une intelligence de cahier des charges. C'est-à-dire, simplicité, robustesse, fiabilité, ça va ensemble. Quand on n'a pas de truc trop compliqué, ça ne tombe pas en panne, si je puis dire. Donc il y avait une cohérence des gènes de ce produit qui était tout à fait intéressante et qui a permis justement de permettre cette notion de vraie voiture, d'une promesse qui est tenue. Hein. Effectivement, c'est pas sophistiqué. Voilà. Mais il y a, par exemple, le fait de commencer par un tricorne, un des problèmes qui coûte cher dans une voiture, c'est l'insonorisation. Bon. Si vous partez sur une architecture tricorne, c'est beaucoup plus facile à insonoriser, sans rajouter plein de machins, qu'un bicorne, où il y a de la transparence, etc. Hein. Donc, vous voyez, il y a un lien entre, par exemple, l'architecture tricorne, qui, pour les pays émergents, habitabilité, etc., le fait qu'on ne va pas dépenser d'argent en insono sur un tricorne beaucoup moins que sur un bicorne. Voilà. C'est ça l'intelligence automobile, d'ingénieur, etc., où on arrive à des choses qui paraissent impossibles a priori. Faire quelque chose qui tombe moins en panne qu'une classe S, qui a des trucs partout avec des bugs, parce qu'il y a tellement de machins compliqués que ça bug forcément. Sur la Logan, ça ne peut pas bugger, il n'y a rien. Mais peut-être, enfin, je confirme, vous verrez dans le bouquin certainement, l'interview de M. Urtiger qui dit la qualité, c'était le truc sur lequel il n'y avait aucune... On ne transigeait pas, quoi. Ça a été ce qui a scandé l'avancement du projet initial, avec quelque chose qui est très intéressant. On n'a pas du tout eu le temps de l'expliquer ici, et c'est plutôt Yannick Lung qui a développé ça. C'est le fait que la remise à niveau de Dacia s'est faite en plusieurs étapes. Il y a eu, c'est la Solenza, il y a eu deux projets avant la Logan qui ont permis, je dirais, d'apprendre ce que c'était que la qualité d'une entreprise occidentale. Voilà. Donc ça s'est fait finalement en trois étapes. Première étape, deuxième projet, qui était un projet presque d'école, puisque la voiture a disparu quasiment. Elle est sortie quelques mois avant la Logan, donc elle n'a pas eu de vie commerciale, mais elle a permis de tester des process modernes dans l'usine de Pitech.
Mon nom est Christian Estève, j'ai été directeur général adjoint de Dacia et le premier directeur général français de Dacia en 2003. Oui, sur la qualité tout à l'heure, donc vous avez évoqué effectivement, je crois que la position qu'avait pris notre président dès l'origine, en fait, sur le cahier des charges de la Logan, mais également sur les produits intermédiaires, comme vous l'avez souligné, qui nous ont permis de monter en puissance. Je me souviens que M. Schweitzer m'avait refusé net toute commercialisation de la Solenza en dehors des frontières de la Roumanie. Et donc, ce à quoi, bien évidemment, nous étions tenus. Donc, sur les problématiques de qualité, précisément, pour s'assurer que nous ne faisions aucune bêtise, bien que, quand on regardait le compte d'exploitation, on avait très envie d'exporter cette voiture, on n'a pas bougé d'un pouce. Alors, ceci étant dit, je crois qu'il y a, dans les problèmes de qualité, il y a beaucoup de management. Hein, et qu'on a eu beaucoup de chance, parce qu'en fait, les Roumains ont appris très vite, je dirais, cette notion de qualité. C'était d'autant plus important pour eux, c'est qu'ils avaient envie de retrouver une certaine fierté de production. Et cette fierté de production, ils l'ont acquise par le phénomène de la qualité. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous l'avez souligné dans votre ouvrage, c'est vrai que nous avons eu beaucoup de chance d'avoir un directeur de projet extraordinaire à la personne du président. et que par voie de conséquence, le transfert de connaissances, le transfert de savoir-faire entre Dacia et Renault sur le plan de la qualité, sur le plan de la mise en place des procédures pour contrôler tout ça, c'est fait facilement. La grande difficulté, on a réussi à la surpasser, a été que le travail que nous avions à faire n'était pas seulement au niveau de Dacia lui-même, l'usine de Pitech, mais c'était l'ensemble du tissu fournisseur. Et que là, il a fallu véritablement, je dirais, faire un travail d'horloger pour arriver à convaincre tout le monde d'adopter les mêmes standards. Mais c'est beaucoup de management, beaucoup d'explications, beaucoup de travail, beaucoup de travail pour faire en sorte que les gens retrouvent la fierté du travail bien fait. Et finalement, ils y sont très bien arrivés, même avec des process entièrement manuels aujourd'hui encore.
Oui, bonsoir, Thierry Masquelier. J'ai une question sur les temps de cycle de l'innovation. Vous en avez peu parlé, sinon que j'ai compris que les gènes de l'innovation étaient déjà chez Renault et exportés vers Dacia. Mais est-ce que pour un projet comme celui-là, qui est en rupture, vous imposez des contraintes de temps pour sortir l'innovation ou est-ce qu'il faut travailler beaucoup plus et beaucoup plus longtemps avant que la rupture s'opère ?
Là, en l'occurrence, les dates parlent d'elles-mêmes. C'est-à-dire que la présentation initiale de M. Schweitzer de la stratégie plan 2015, c'est automne 97, à l'ensemble des cadres 3C, je crois, Renault. La nomination d'un directeur de programme, donc le moment où, à partir de la vision stratégique, on trouve suffisamment de consistance à l'idée pour nommer une équipe, mars 99. Pour une sortie en 2004. Bon. Donc, je veux dire, il y a eu une période où l'idée s'est cherchée, là, clairement. Et entre les deux, il y a eu l'opportunité Dacia, effectivement. S'il n'y avait pas eu Dacia, je pense pas que Logan n'aurait pris cette forme-là du tout. Hein. Donc, il y a eu effectivement des choses qui se sont opérées, mais c'est un projet qui a été absolument pas piloté par le temps au début. Après, oui, mais au début, non. On n'est pas du tout dans un rythme genre loi de Moore où il faut renouveler, justement, qui est le modèle des gammes, des renouvellements de gamme mainstream, qui explique d'ailleurs la logique de plateforme avec l'embarquement des innovations pour ne pas rater un renouvellement de véhicules Clio 1, Clio 2, Clio 3, Clio 4, etc. Le fait qu'on soit en dehors de la gamme classique permet de dire soit on l'a fait, soit on ne l'a fait pas. Mais on ne va pas s'obliger à sortir un truc qui sera différent de la vision qu'on a donnée initialement. C'était le cas aussi de Twingo, à l'origine. Renault pouvait ne pas faire cette voiture, comme Renault pouvait ne pas faire Logan, ça aurait été dommage, mais voilà. Donc elle n'est pas drivée par le temps, si je réponds. Comme Prius n'a pas été drivée par le temps.
Pardon, juste peut-être pour ajouter un mot, je crois qu'il est important exactement, c'est de passer d'une phase qu'on peut appeler exploratoire, où le temps, où la pression temps ne joue pas un rôle très fort, à une phase d'engagement où là, le temps devient essentiel. Et où ça fait partie, effectivement, des contraintes et des restrictions. Je parlais tout à l'heure des limites de budget, des limites de dépenses. Le temps devient aussi un outil d'accélération et de limitation, finalement, des ressources.
Michel Coste, Société Innovev. J'ai toujours été interpellé par la non-présence de la Logan en Chine. Or, la Chine, c'est le pays de moindre coût de la main-d'œuvre. Et entre 2000 et 2010, en fait, nous avons vu l'expansion totale du marché chinois. C'était vraiment la grande décennie de l'époque chinoise. Alors ma question est-ce une volonté délibérée du groupe Renault de ne pas avoir été en Chine ? Est-ce que parce qu'il était trop difficile d'être agile pour aller vers un marché tellement différent et une culture tellement différente de la nôtre ? Ou bien y a-t-il d'autres raisons ? Et un corollaire de cette question, c'est pourquoi les Chinois n'ont-ils pas copié la Logan, pour reprendre ce qu'a dit M. Schweitzer.
Ça, c'est pas du tout la même question. Oui. Sur la première question, je vais laisser M. Schweitzer répondre. Juste une remarque, c'est qu'on fait un biais dans cette réunion qui est de parler de Renault uniquement dans le prisme Logan. Entre 1997 et 2004, il s'est passé pas mal d'autres choses importantes pour Renault, notamment l'alliance avec Nissan, hein, par exemple. Et d'autres choses qui ont évidemment interféré avec l'histoire qu'on vous raconte ici. Mais je vais peut-être laisser M. Schweitzer...
Peut-être d'abord répondre à la seconde question. Les Chinois n'ont pas fait de Logan parce qu'ils ne savent pas.
Ils ne savent pas, tout à fait.
Je veux dire, il faut, je l'ai dit tout à l'heure, un extraordinaire savoir-faire d'ingénieurs et de techniciens pour faire Logan. Et aujourd'hui, les Chinois ne maîtrisent pas encore l'art automobile. Ils maîtrisent l'art de la fabrication, ils ne maîtrisent pas l'art de la conception. Sur la première question, notre partenaire Nissan était en Chine. Renault n'avait pas l'autorisation de faire des voitures particulières en Chine. On avait l'autorisation de faire des trafics en version minibus, version ancienne. Et mon idée était effectivement que Logan était un bon produit pour la Chine. Et puis ça ne s'est pas fait ainsi.
Bonjour, Christine Morel-Maroger. Il y a un point qui me frappe dans l'histoire, d'un point de vue culturel et managérial, c'est en fait la confiance alliée à la gestion de l'erreur. C'est-à-dire que ce qui me semble, d'après ce que vous m'avez raconté, c'est que finalement, on procède par tâtonnement à partir d'un certain moment, ou par étapes en tout cas. Il y a des choses qu'on fixe et puis il y a d'autres choses après qu'on essaye. Et finalement, cette erreur, elle est acceptée comme partie du projet finalement et moyen d'apprentissage. Voilà, j'aimerais bien que vous m'en parliez un peu plus.
Oui, alors je pense que projet Logan, c'est plus la notion de surprise que d'erreur. Il y a d'autres projets, y compris chez Renault, qui ont eu un destin moins marrant que Logan. Logan a toujours été devant ses prévisions. C'est assez exceptionnel. Les prévisions qu'on faisait avant ont toujours été dépassées par la réalité, globalement, en enveloppe. Mais par contre, ça s'est fait sur des scénarios qui n'étaient pas ceux qui étaient prévus. Alors, je pense que par rapport à ça, répondre un peu à la notion d'agilité stratégique, etc., je pense que là, la capacité et l'autonomie des directions de programme, et je ne parle pas des directions de projet, là, je passe à l'étape d'après, la direction de programme pouvait explorer des marchés un peu exotiques, et M. Schweitzer me contredira peut-être, mais je me souviens de l'interview avec Gérard de Tourbet, où il allait explorer des marchés un peu bizarres, dans une réunion de direction générale, et il répondait, vous avez du temps à perdre, de Tourbet, alors vous devriez vous concentrer sur... Donc, il y avait une capacité de l'intraprise, de la start-up interne Logan, à tenter des coups, etc., sans finalement... avoir la bénédiction urbi et orbi de... voilà. Donc ça renvoie peut-être à cette notion de confiance que vous dites. Et ça a permis d'avoir une réactivité, une boucle d'une extraordinaire efficacité. Je veux dire, la manière dont ils ont complètement ramassé le marché du GPL en Allemagne sur une variante sortie très très rapidement, etc., suite à une niche... justement de Bruxelles, là, pour le coup, bien, ça s'est fait parce que c'était une petite équipe qui avait des moyens, qui avait effectivement énormément de compétences et qui pouvait tout de suite exécuter le mouvement. Donc, une agilité, effectivement, qui était liée aux directions de programme. Là. Une espèce de business unit interne. Certains ont dit un peu prédateur de la grande entreprise Renault, parce qu'effectivement, elle s'appuie sur la compétence technique de Renault, mais capacité à mettre en mouvement ça... sur des opérations un peu risquées, mais voilà.